Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Luc J. Vigneault qui vient nous présenter les merveilleuses têtes heureuses. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet « Peut-on guérir la pédophilie? » Notre chroniqueuse Justine Fortin nous amène sa chronique sur le cancer du sein et détresse psychologique. On commence en chanson avec Nicolas Testa et la chanson s'intitule « Cœur K.O. » Bienvenue à Folie Douce.
Syntonisé actuellement Folie Douce, expert généraliste en santé mentale.
C'est maintenant le moment d'accueillir mon invité, Luc J. Vigneault. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Alors, au téléphone, merci d'être là. Tu es dans la région de Québec et on te reçoit aujourd'hui. On t'a déjà reçu dans le passé, mais cette fois-ci, on te reçoit à titre de vice-président de la troupe École de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses, un nom que j'aime beaucoup.
Oui.
Alors, bienvenue.
Merci.
Et parle-nous donc justement de ce que c'est, parce que c'est un beau nom qui semble être très... Moi, ça me c'est un peu émerveillant comme nom. C'est un beau nom, les merveilleuses têtes heureuses. Il y a quelque chose de très positif. Donc, comment tu peux nous décrire ce que c'est?
Ben d'abord, au point de vue technique, les merveilleuses têtes heureuses, on voulait s'appeler les têtes heureuses, mais il y avait déjà une troupe qui existait, je crois, quelque part dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'appelait déjà les têtes heureuses.
Okay.
Est-ce que c'est une troupe liée à la santé mentale? Je l'ignore. Ce que j'ai su, c'est que le nom de la troupe était déjà pris. Alors, on a ajouté le mot merveilleuse, qui, comme tu le dis, c'est l'émerveillement de la belle folie que qu'est le théâtre.
C'est ça. D'ailleurs, il faut spécifier qu'on parle à Luc J. Vigneault et non pas Luc Vigneault, parce qu'il y a... T'as un homonyme qui est aussi impliqué dans la santé mentale, mais qui n'a pas de J, lui. Alors, toi, t'as un J. Alors, on parle à celui-ci, finalement. Alors, on est bien content de le faire.
Oui, exactement. Et si tu me permets, je vais faire un petit lien avec... on a des projets... quand je dis « on », je parle des Merveilleuses Têtes Heureuses. Ouais. On aurait des projets potentiels de partenariat avec Luc Vigneault, l'autre Luc Vigneault, notamment au point de vue de l'association Vox Québec, anciennement les porte-voix du rétablissement, au nom duquel je t'avais donné une entrevue en tant que secrétaire du CA.
Ouais.
Je suis encore secrétaire du CA, alors voilà.
Et donc, si on revenait justement à la troupe Les Merveilleuses Têtes Heureuses, à la fois, ben, t'es toi-même acteur, tu fais de la mise en scène, ben, t'es enseignant aussi, donc t'es vraiment partie prenante de cette troupe. La troupe a été créée à quel moment?
La troupe a été créée à mi-chemin dans la décennie 2000 par un membre fondateur, Louis-François Gagné, de regretter mémoire, mais à qui tu as déjà parlé dans le cadre de cette émission-là, lors d'une entrevue antérieure. Et Louis-François Gagné, on s'est connus à cette époque-là, quoique j'étais plus ou moins impliqué comme membre fondateur, parce que, bon, un concours de circonstances m'a amené à me dissocier temporairement de la troupe, pour mieux y revenir un an avant le début de la pandémie, en 2019. Et depuis cette époque-là, il y a un spectacle qui roule de façon régulière, ou qui roulait de façon régulière jusqu'à la pandémie à tout le moins, c'est un spectacle qui s'intitule « Parle pas de ça ». Qu'est-ce que c'est ce titre « Parle pas de ça » C'est pour souligner l'aspect tabou de la santé mentale. À l'époque, si on se reporte dans le contexte des années 2000, comparativement aujourd'hui, c'est presque le jour et la nuit, même s'il reste beaucoup de forêts à défricher. Mais c'est ça. Donc, il y avait une espèce de silence, d'omerta autour des questions reliées à la santé mentale. Et cette pièce, elle est constituée de à peu près une vingtaine de tableaux qui évoquent chacun des diagnostics de santé mentale, de la schizophrénie à la bipolarité, en passant par les troubles anxieux et bien d'autres diagnostics que je vais passer sous silence, que j'oublie peut-être, je m'en excuse. Et on passe tout ça au peigne fin, au crible. On passe la santé mentale au peigne fin dans cette pièce-là.
Et donc, le but ultime, au départ, c'était justement d'amener par le théâtre un peu de démystifier la santé mentale. C'est un peu ça.
Oui, de démystifier la santé mentale et aussi de démontrer que par le biais du théâtre en particulier et des arts en général, parce qu'on a fait plusieurs entreprises artistiques connexes dans le cadre des activités des Merveilleuses, pour démontrer que par le biais du théâtre, on pouvait se rétablir ou faire à tout le moins la promotion du rétablissement en santé mentale. Et c'est là que, justement, j'ai approché Luc Vigneault, l'autre, pour un projet de partenariat éventuel avec Vox Québec. Et peut-être, qui sait, une conférence en alternance avec Luc, qui parle, discute avec le public, fait un monologue de conférence, on s'entend.
Ouais.
Et éventuellement des scénettes, des petites scènes, des petits canevas, ce qu'on appelle des lazis en termes de... pas des nazis, des lazis, j'ai bien dit, en termes de comédien dell'arte, qui sont en fait des aides-mémoires pour les comédiens qui improvisent dans la technique de la comédien dell'arte.
Et on remarque que les arts en général, mais les arts de la scène, on a l'impression que souvent, il n'y a pas tant d'arts de la scène qui se font là, au niveau de la santé mentale, mais ceux qui en font, ceux qui en ont fait, il y a quand même un grand bénéfice pour les gens qui jouent dedans et aussi pour le public, là.
Oui, un double bénéfice pour les commettants, les artisans, autant ceux et celles qui sont sous les spots des projecteurs, qu'on appelle là, en français, qui sont sous les pinceaux des projecteurs, et autant que pour ceux qui sont ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre, celles qui sont des travailleurs de l'ombre, c'est-à-dire qui travaillent en coulisses, dans les loges pour les maquillages, les habillements, les costumes, tout ça. C'est toute une logistique, une organisation autour d'une troupe de théâtre ou d'un spectacle en particulier qu'on essaie de monter de toutes pièces. Et vu qu'on n'a pas nécessairement la logistique ou les moyens techniques ou financiers d'une troupe, comme je prends par exemple le Trident à Québec ou le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal ou la compagnie Jean Duceppe ou n'importe quel autre, qui est... on a ce sens du professionnalisme-là dans la volonté, si tu veux, de promouvoir le théâtre, par le rétablissement par le théâtre, mais aussi de faire du théâtre pour notre plaisir, pour se satisfaire soi-même, se faire du bien mentalement, au point de vue psychologique. Comme tu l'as dit, c'est aussi bon pour ceux qui sont impliqués directement dans la parade que pour ceux et celles qui regardent la parade, c'est-à-dire les spectateurs dans la salle.
Est-ce que la troupe Les Merveilleuses Têtes Heureuses a eu l'occasion, surtout probablement avant la pandémie, de se promener un petit peu ou c'est plus limité aux alentours de la ville de Québec?
Pas seulement limité aux alentours de la ville de Québec. D'abord, Louis-François Gagné faisait promener la troupe un peu partout à travers le Québec, même sûrement dû faire quelques escales à Montréal, entre autres. Et non seulement ça, mais il y a eu des contacts avec des échanges culturels qu'on appelle avec la France. Donc, on est connu outre-mer, même que j'ai des contacts LinkedIn, qui est un réseau social comme Facebook.
Ouais.
J'ai des contacts avec des personnes qui sont impliquées dans le domaine de la santé mentale, professionnelle ou non, en France et même en Belgique. Alors, peut-être même en Suisse, quelques-uns, là. Alors, ça donne une idée. Donc, j'ai à peu près les mêmes contacts que l'autre Luc Vigneault.
Ouais.
On est comme presque deux frères, si à moi, Luc et moi.
Ça, on doit vous mélanger à l'occasion.
Oui, ça arrive fréquemment. Même moi-même, je me mélange.
Ouais.
Notre directrice générale de Vox Québec, Julie Tandy, que je salue, nous mélange. Même que c'est une anecdote cocasse que je vais faire rapidement. Là, elle avait envoyé un courriel à... elle devait m'envoyer un courriel parce que c'est dans mes premiers kilomètres en tant que secrétaire de Vox Québec, à l'époque les porte-voix, et là, elle m'a amené, elle envoie un courriel à Luc Vigneault. Là, Luc a l'air surpris là, parce qu'il n'était même pas membre du CA officiellement. Alors, il dit, parce que je sache, je suis pas membre du CA officiellement élu, mais si tu veux, j'aille donner mes lumières, puis ben, tu veux me consulter pour le CA, ben, c'est bien correct, je peux bien embarquer. Et là, ça a pris quelques minutes pour que je lui réalise que c'était pas le bon Luc Vigneault.
C'est pas le même. Hein. En fait, c'est le bon, vous êtes les deux bons.
Oui, on est deux bons.
Il n'y
a pas de parti pris plus qu'un autre.
Non.
On est deux bons. Jusqu'à un certain point, on a le même rire, des fois.
Ah, ben c'est bien. Il y a quelque chose de beau.
Là, on est joyeux. Ça fait une belle combinaison avec les Merveilleuses Têtes Heureuses.
Oui.
Une Merveilleuse Tête Heureuse, celle de Luc Vigneault. Et un merveilleux fou. Oui. Non pas dans le sens péjoratif du terme, mais une très belle folie, une douce folie, comme le dit le nom de l'émission, celle de Luc Vigneault ou l'autre.
Oui, effectivement. Ben Luc, justement, est-ce que comme pour tous les organismes, j'imagine que la pandémie a eu beaucoup d'impact sur
oui.
Quand on parle de théâtre, il faut quand même que ce soit pour présenter des pièces ou même pour pratiquer ou peu importe. Comment vous en êtes sorti au courant de la pandémie?
Ben, on s'en est sorti en essayant de faire les choses autrement. C'est-à-dire que, pour ce qui est de la technologie, ça a été un peu plus ardu, un peu plus rêche, je dirais, parce que ce ne sont pas nécessairement tous les membres de la troupe qui ont le pouce technologique, là. On dit le pouce vert dans le terme de l'horticulture. C'est pas nécessairement des gens qui ont tous le pouce technologique ou les pouces technologiques si vous avez un téléphone intelligent, là. Mais c'est ça. Donc, ils n'ont pas nécessairement la fibre technologique très développée et n'ont même pas accès à un ordinateur. Même que je veux donner un exemple, là. Lors de la journée Belle Cause pour la Cause, je faisais un triple lancement de poésie. J'avais organisé un récital de poésie avec des extraits de mes trois recueils de poèmes que j'ai écrits moi-même. Je le faisais avec les Merveilleuses Têtes Heureuses. On a fait des ateliers tout le long de l'automne par rapport à ça. Évidemment, c'était avant Omicron. Et là, arrive Omicron, et là, tout est chambardé. Il y a comme un malentendu au niveau de l'utilité des moyens technologiques dont on disposait. mes deux acteurs avaient un téléphone cellulaire, mais n'avaient pas un téléphone intelligent. C'est important de spécifier la différence parce que avec un téléphone intelligent, vous pouvez vous filmer. On voulait faire ça. On avait le plan B, c'était le faire sur Zoom, faire un lancement de poésie, un spectacle de poésie sur Zoom. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un malentendu. Mes deux élèves étaient certains qu'ils pouvaient filmer avec un téléphone cellulaire, mais c'est plutôt avec un téléphone intelligent.
C'est ça. Donc, c'est ce genre d'embûche-là, mais j'imagine que la troupe demeure quand même confiante et tu demeures confiant là,
on demeure confiant pour l'avenir. On essaie de maintenir le bateau à flot au niveau psychologique à tout le moins. C'est un peu notre dada, même beaucoup. On a réussi quand même à réaliser quelque chose en présentiel. C'est important de le mentionner.
Ouais.
On l'a fait le 11 septembre dernier. Tu me vois venir, là.
Ouais.
Et pour les 20 ans du 11 septembre, on a fait un spectacle que j'ai écrit moi-même, dont j'ai joué un des deux personnages. C'est les deux personnages. Et c'est un spectacle qui alterne le théâtre, la poésie. J'ai préenregistré des poèmes... qu'on diffusait sur bande sonore pendant le spectacle, et de la musique avec un piano sur place, et même de la chanson. On a invité une chanteuse qui était Marilyn Dagenais, notre présidente de l'époque Vox Québec. Donc, elle est venue à Québec pour expressément pour chanter avec nous autres. Je me suis même tapé New York State of Mind à la fin.
OK, quand même. OK.
Ça s'envoie quand même.
Multiple talent. Mais non, c'est intéressant. Il reste peu de temps, Luc, mais c'est fort intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus sur les merveilleuses têtes heureuses où vous êtes sur Facebook, pour savoir un peu les développements, ça évolue toujours. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça, finalement?
Oui, on peut taper les mots clés « merveilleuses têtes heureuses » sur la barre de recherche Facebook. Ça, c'est pour situer les gens, c'est dans le coin gauche supérieur de l'écran de mémoire. Il y a comme une loupe, taper les mots-clés de recherche merveilleuse et heureuse, vous allez trouver facilement.
Parfait. Merci beaucoup, Luc Givignaud. Merci beaucoup, vice-président de la troupe École de théâtre Les Merveilleuses Têtes Heureuses. Et puis, bonne continuation. On vous souhaite une multitude de beaux spectacles dans l'avenir. J'espère que ça va se réaliser.
Ouais, en présentiel, préférablement.
Absolument. Merci beaucoup et bonne continuation.
C'est moi qui te remercie. Bye.
Salut. Bye-bye.
Je m'étais promis de me battre et de pas nous abandonner. Mais depuis quelque temps, je m'arrache. Je me sens les bras tombés quand je rentre tout seul chez nous le soir, sans le réconfort de ma moitié. Puis qu'il reste plus rien dans l'armoire que des miettes de cœur brisé. Je m'étais permis de croire que tout redeviendrait comme dans nos belles années de gloire. Quand tout le monde nous en vient, je me nourrissais de t'entendre rire. Et t'aimer, je m'en abreuvais, mais c'est un rêve qui veut plus me sourire. Puis j'ai pas le goût de voir l'après, c'est une promesse qui me garde debout contre le vent. Une bataille de chaque jour, de chaque instant. Maudite promesse. Je sais bien que c'est elle qui t'a fait fuir, puis moi j'attends, sans le meilleur et pour le pire. Je m'étais promis de jeter l'ancre et t'attendre juste à côté de la rive qui se trempe sous les vagues de notre passé. Mais la marée donne pas de répit pour m'éloigner peu à peu. C'est à croire que les années de colle s'emplissent, nous aurons juste laissé plus vieux. C'est une promesse qui me garde debout contre le vent. Une bataille de chaque jour, de chaque instant. Maudite promesse, je sais bien que c'est elle qui t'a fait fuir. Puis moi j'attends, sans le meilleur et pour le pire. D'autres femmes pour qui je me fendrais le cœur, non. Je dois pas jeter toutes les armes. Mais si tu savais comme j'ai peur, c'est pas facile de lever l'ancre et de mettre le cap sous d'autres cieux. Mais comme vivre près de toi, c'est d'attendre, ben, c'est ce que je peux faire de mieux. C'est une promesse qui me garde debout contre le vent. Une bataille de chaque jour, de chaque instant. Maudite promesse, je sais bien que c'est elle qui t'a fait fuir. Puis moi j'attends, sans le meilleur et pour le pire. C'est peine perdue et je vois que mon cœur lui s'emprisonne. Mais on ne tue jamais deux fois la même personne. Je sais bien que je m'étais promis de me battre.
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui Pierre, ton sujet un peu délicat en fait, peut-on guérir la pédophilie? Un sujet qui fait parler beaucoup.
Oui, je pense que c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Est-ce que la pédophilie peut se guérir? D'après plusieurs experts, c'est quelque chose qui ne se guérit pas, c'est-à-dire c'est des gens, en grande majorité des hommes, qui ont une attirance sexuelle pour les jeunes enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse pulsion-là? Est-ce qu'il y a des façons de la contrôler? Je pense que c'est beaucoup dans ce sens-là que la recherche se conduit. Mais tu vas voir au fil de l'article, il y a des choses qui sont assez intéressantes et on apprend toujours des nouvelles choses grâce aux examens qu'on fait sur le cerveau, par exemple.
Ouais.
Alors, c'est un article qui s'appelle « Ainsi, peut-on guérir la pédophilie? » C'est écrit par Mme Bouchra Wattik, qui est reporter nationale à Radio-Canada. Alors, elle nous dit « dans le langage populaire, les termes pédophile et agresseur d'enfants sont souvent utilisés comme synonymes. Pourtant, sur le plan scientifique, il y a une différence. Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, la pédophilie implique une excitation sexuelle envers un enfant prépubère, qu'il y ait ou non passage à l'acte. Des recherches indiquent qu'environ 1% des hommes seraient pédophiles.
Ça semble beaucoup, oui, ça, mais je ne croirais pas.
C'est surprenant, oui. Ouais. Mais les experts estiment que les cas de femmes pédophiles sont beaucoup plus rares et la majorité des pédophiles ne commettent jamais d'attouchement sur des mineurs.
Beaucoup de monde pense aussi, se demande toujours un peu, ça vient d'où, parce que c'est un peu dur à comprendre comment quelqu'un peut être attiré par des enfants.
On se demande comment c'est possible, mais tu vas voir que on en apprend de plus en plus sur les raisons pourquoi. Tu vas voir quand on va être rendu dans les scans là, sur le cerveau. Mais d'un autre côté, on estime que les deux tiers des agresseurs d'enfants ne satisfont pas aux critères diagnostiques de la pédophilie. M. James Cantor, qui est psychologue clinicien et sexologue américano-canadien spécialisé dans ce domaine, nous dit « La situation la plus courante où un non-pédophile va commettre une agression sexuelle sur un enfant est une situation d'inceste. Généralement, cela se passe dans des familles très chaotiques et parfois violentes. » Madame Sarah-Michelle Neveu, qui est chercheuse en psychologie, qui évalue les agresseurs sexuels à l'Institut Pinel de Montréal, nous dit « On pourrait se retrouver avec quelqu'un qui a, par exemple, commis une agression sexuelle sur un enfant, mais dont l'idée était d'avoir quelqu'un sous son emprise. » Madame Neveu poursuit en disant « Ça aurait pu être une femme saoule, ça aurait pu être une personne âgée et ça aurait pu être un enfant. À ce moment-là, ça a été un enfant. » La problématique est beaucoup plus dans la recherche de la domination ou du contrôle de la victime. Et l'âge de la victime a, pour certaines personnes, peu d'importance. C'est vraiment le sentiment de contrôle qui va les exciter. M. James Cantor poursuit en disant « La différence entre les pédophiles qui agressent des enfants et ceux qui ne le font pas est la même qu'entre un homme hétérosexuel normal qui commet un viol et un qui ne le fait pas. Un homme qui commet un viol ou un pédophile qui agresse un enfant ont d'autres problèmes dans la tête. C'est généralement ce qu'on appelle un comportement antisocial ou dans les pires cas de la psychopathie. » On estime que seul le tiers des agresseurs d'enfants sont véritablement pédophiles et la majorité des pédophiles ne commettent jamais d'agression.
Donc, ça, je l'ignorais, tu vois.
Moi aussi.
Je croyais pas que ça existait. Là.
Parce que souvent, la question qu'on se dit, mais pourquoi ils n'arrivent pas à se retenir? T'sais? Alors, il y en a beaucoup qui se retiennent.
Et heureusement, là, parce que c'est quand même c'est dramatique pour les enfants qui sont touchés, puis leur famille, etc.
Oui, à chaque fois. Comment diagnostiquer la pédophilie? Lorsqu'un individu agresse un enfant, il est important de déterminer s'il est véritablement pédophile afin de déterminer son risque de récidive. M. Christian Joyal, qui est psychiatre et neurologue, nous dit « Quelqu'un qui va le refaire, c'est plus souvent quelqu'un qui a vraiment de la pédophilie, donc qui a une attirance de base envers des enfants. Ceux qui l'ont fait sous l'effet de l'alcool, par exemple, ou de l'impulsivité, ou d'une opportunité, vont préférer les adultes. Donc, eux, ils risquent moins de récidiver. M. Joyal et ses collègues ont développé une méthode unique au monde pour mesurer l'excitation sexuelle, ainsi diagnostiquer la pédophilie de manière fiable. Le chercheur en neuropsychologie a d'abord mené ses recherches sur des hommes non pédophiles. Pendant qu'il visionnait des images de pornographie montrant des adultes, les participants subissaient une électroencéphalographie qui mesure l'activité électrique du cerveau. Le chercheur a pu démontrer que lors d'une excitation sexuelle, l'activité cérébrale est plus intense dans l'aire dite sensorielle, située au centre du cerveau. Deux autres instruments enregistraient également la réaction des participants. Un plétismographe pénien, soit un anneau de mercure qui mesurait la circonférence de leur pénis, et un oculomètre qui suivait le mouvement de leurs yeux par ondes infrarouges. Le protocole développé par Christian Joyal est maintenant utilisé pour diagnostiquer la pédophilie au sein du laboratoire d'évaluation des préférences sexuelles de l'Institut Philippe Pinel. Ce laboratoire évalue des hommes qui ont commis des crimes sexuels dans le but de déterminer leur sentence ou d'établir le risque de récidive. Au laboratoire, les patients sont exposés à des personnages virtuels d'enfants, d'adolescents et d'adultes tous dénudés. Cette approche a été développée par Patrice Renaud, qui est chercheur et professeur au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais, pour éviter d'utiliser des images d'enfants réels.
C'est un sujet plus particulièrement tabou. On va poursuivre à l'espresso allongé. Alors, peut-on guérir la pédophilie?
La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
Je suis heureux de recevoir notre chroniqueuse Justine Fortin. Bonjour Justine.
Bonjour, merci.
Alors, ben oui, merci d'être là. C'est toujours agréable de te recevoir. On va parler d'un sujet important pour toi, mais important pour la société. En fait, c'est le cancer du sein, la détresse psychologique que ça cause, en fait. C'est sûr que tu vas pouvoir nous expliquer parce que tu as étudié longtemps et tu étudies encore dans le domaine. Tu as fait une maîtrise. Puis t'es même au niveau doctorat maintenant, toujours sur le même sujet, en fait.
Oui, dans le fond, dès ma maîtrise, le cancer du sein, ça a capté mon attention. C'est sûr que je voulais travailler là-dessus. C'est sûr que ça touche une femme sur 8. Donc, je me sens un peu concernée aussi par la population cible. Puis, c'est sûr que les avancées en recherche en ce moment en cancer du sein permettent justement le rétablissement de plus en plus. Donc, on est quand même bien avancé, mais... Le rétablissement amène aussi peut-être des problèmes au niveau psychologique, puis c'est ça qu'on veut faire.
Oui, mais c'est ça qui est assez unique dans ta démarche de recherche, parce qu'on parle beaucoup de ce cancer du sein, c'est sûr que c'est beaucoup connu, mais tout le côté psychologique est moins connu, c'est pour ça que c'est intéressant de s'attarder à ça. Tu as appris sûrement un paquet de choses, puis tu vas sûrement en apprendre plein d'autres, mais comment tu peux nous présenter finalement ton sujet de chronique?
Dans le fond, ma maîtrise, je pourrais vous présenter un peu le projet que j'ai eu à faire.
Ouais.
Nous, on aime ça faire la prévention des symptômes de détresse psychologique au lieu d'aller traiter une fois qu'ils sont apparus.
Ouais.
Donc, ma maîtrise, on a visé sur le moment entre l'annonce du diagnostic et le début des traitements. Parce que souvent, les femmes en cancer du sein reçoivent des traitements psychologiques une fois que les traitements ont commencé. Mais il y a quand même un délai entre les deux, puis c'est là qu'on est allé étudier. Donc, on a fait une méta-analyse qui a repris plusieurs études qui ont été faites, qui ont mesuré les symptômes de détresse psychologique. Donc, ici, on rentre autant les symptômes d'anxiété, les symptômes dépressifs, les symptômes de stress post-traumatique, et on est allé voir c'est quoi la prévalence de ces symptômes-là au moment de l'annonce du diagnostic, jusqu'avant le début des traitements, pour être capable de montrer justement aux cliniciens que c'est peut-être un moment important pour aller les traiter.
C'est peut-être plus important même jusqu'à certains points, parce qu'effectivement, c'est... Tout le monde sait que ça existe, le cancer, mais quand quelqu'un se le fait annoncer, ben il se passe quelque chose. Puis comme tu dis, en plus, souvent, il y a un délai. Fait que pendant ce délai-là, on réfléchit, puis c'est ça. Puis ça doit quand même causer des torts. Là.
Oui, puis quand on voit sur le terrain, normalement, les infirmières, les équipes médicales sont supposées proposer de l'aide psychologique directement, mais dans les faits, ils n'ont pas nécessairement le temps de faire ça, encore moins en temps de pandémie. Donc, c'est quelque chose aussi que notre étude, on essaie de faire, c'est d'essayer de pousser le plus possible parce que quand on prévient ces symptômes-là, s'ils ne sont pas prévenus, pendant la phase de traitement, ça peut venir jouer sur l'adhérence au traitement aussi, le fait d'avoir de la détresse psychologique. Donc, plus tôt on s'y prend, le mieux c'est.
Avant de t'intéresser à ce sujet-là puis cet angle-là, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un manque justement d'études là-dessus puis d'écrits ou de ressources.
Oui, puis ce que je trouvais aussi, c'est qu'on ne distinguait pas les femmes qui avaient commencé leur traitement et ceux qui ne l'avaient pas commencé. Donc, cette phase-là, il n'y a aucune étude, ou très peu, qui regarde entre l'annonce du diagnostic puis le début des traitements. Tout le monde confond les femmes qui ont commencé leur traitement de celles qui n'ont pas commencé. Donc, c'est un peu ça que nous, on avait trouvé un trou un peu dans la recherche autant que dans la clinique, puis on s'est dit, bon, on va aller miser sur ce moment-là, on va montrer qu'il y a de la détresse psychologique à ce moment-là, et pour mon doctorat, on va essayer d'aller réduire la souffrance psychologique à ce moment-là. Donc, c'est comme une continuité là, qu'on fait.
Et je pense que tu dois savoir aussi que ta recherche va servir concrètement, parce que effectivement, il y a un manque. Il y a des femmes qui sont atteintes, donc à quelque part, c'est juste gagnant là, pour tout le monde. Là.
Oui, puis on est en collaboration avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ce qui est quand même intéressant parce qu'on est allé leur présenter notre étude et on voyait vraiment que les médecins, là, ils sont au courant là, que leurs patients ils ont une détresse psychologique. Donc, c'était le fun de voir que même des médecins qui guérissent d'autres types de cancers que le cancer du sein, ils nous demandaient « Est-ce que vous allez venir faire la même étude avec, par exemple, les hommes qui ont le cancer de la prostate, des choses comme ça? » Donc,
Puis vous êtes plusieurs, toi, tu as choisi ce sujet-là, mais il y a plusieurs personnes qui sont avec toi pour faire la démarche?
Bien, en fait, je suis quand même tout seul sur ce projet. C'est, des fois, au doctorat, on est plusieurs, mais moi, je suis toute seule, puis je suis supervisée par mes deux directeurs là, qui m'épaulent là-dedans. Donc, Alain Brunet, qui est plus en stress post-traumatique, donc il connaît un peu plus l'aspect santé mentale, puis Marie-France Marin, qui, elle, est plus en stress. Donc, on veut aller voir est-ce que notre traitement qu'on va essayer de faire va réduire justement la détresse psychologique puis le stress physiologique qu'on peut mesurer dans les cheveux ou peu importe dans quelle façon. Donc, je suis toute seule, mais je suis bien épaulée par une grosse équipe médicale et mes directeurs.
Et au courant de ta maîtrise, donc tu es au niveau du doctorat, mais au courant de ta maîtrise, as-tu découvert des choses qui t'ont surprise?
Oui. Dans le fond, je pourrais vous donner là, les chiffres là, de prévalence qu'on a trouvés.
Ouais.
Par exemple, l'anxiété, c'est un des symptômes les plus fréquemment mesurés là, chez les femmes à la fin de, quand elles reçoivent leur diagnostic. Ce qui est quand même étonnant, on aurait pensé peut-être d'autres types de symptômes, mais c'est vraiment l'anxiété qui est le plus haut. Sinon, 39% des femmes vont ressentir de la détresse générale. Donc ici, c'est pas de la détresse spécifique, c'est vraiment juste des symptômes de détresse généraux. Sinon, 19% vont ressentir des symptômes dépressifs. Ça a l'air des petits pourcentages, mais en même temps, ces personnes-là ont besoin aussi d'avoir des traitements, puis ces personnes-là n'en ont pas nécessairement. Donc, ça a l'air des petits chiffres, là, parce que c'est en bas de 60%.
Mais c'est quand même beaucoup,
c'est beaucoup.
On veut aider les personnes à leur santé mentale. Alors, quelque part, même des pourcentages, c'est presque une personne sur cinq. Là, qu'on parle de 19% pour la dépression. Là.
Oui.
Puis l'anxiété, effectivement, on peut le comprendre, parce que un peu l'inconnu qui s'en vient, puis c'est quand même 34%, tu nous dis, là, c'est ça?
Puis, dépendamment aussi du stade que les femmes sont, donc un diagnostic de cancer du sein, on a une spécification aussi du stade qu'elles sont. Donc, plus le stade est élevé, moins il y a de chances de guérir du cancer. Donc, c'est sûr qu'on voit que plus le stade est élevé, plus peut-être ces personnes-là ont besoin d'aide psychologique ou sinon que les stades 4 ou les cancers récidivants. Donc, il y a un cancer qui revient après plusieurs années. Le niveau de détresse peut être aussi plus élevé que ceux que c'est la première fois qu'ils ont un cancer. Donc, ça, on a vu ça aussi dans notre projet.
De façon générale, Justine, est-ce que tu dirais aussi que l'aspect psychologique est souvent laissé de côté quand on parle de cancer qui est supposément une maladie physique?
Oui. C'est sûr que les avancées de la science, maintenant, on peut voir que du côté physique, on est plus capable de s'en remettre du cancer. Donc ça, c'est des belles avancées, mais du côté psychologique, même les survivantes du cancer peuvent continuer à avoir des symptômes de détresse psychologique à long terme qui nuisent à leur bien-être puis à leur qualité de vie. Puis ça, c'est encore mis de côté. Autant dans les subventions qui sont données à la recherche, c'est toujours pour la prévention, plus l'aspect physique. Mais l'aspect psychologique, on se bat encore pour avoir de l'argent pour essayer de réduire la détresse psychologique chez cette population-là.
Ouais. Oui. Et tu as décidé, donc, comme tu nous disais, de poursuivre en doctorat. Tu veux aller plus loin, tu veux amener des... Puis éventuellement, dans ta carrière, tu vas poursuivre.
Oui.
Tu as l'idée de poursuivre dans ce domaine-là.
C'est un sujet vaste. Oui, donc je suis en psychologie, donc c'est sûr que je vais faire aussi de l'intervention. Donc si notre traitement qu'on fait se montre efficace, c'est sûr que j'aimerais poursuivre dans cette avenue-là. Donc pendant ma maîtrise, on a montré qu'il y avait de la détresse psychologique dans ce moment précis-là. Puis pendant mon doctorat, on va essayer d'aller la réduire par l'intervention super simple d'une médication juste avant l'annonce du diagnostic. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le propranolol, qui est une médication qui est souvent offerte justement aux gens qui ont un diagnostic de trouble anxieux ou un stress post-traumatique. Et ça vient réduire la réaction physiologique, donc la réaction du corps, pendant une heure environ. Donc, nous, on va essayer de donner une pilule de propranolol une heure avant l'annonce du diagnostic, parce que ça prend une heure avant de faire effet. Et on va voir est-ce que cette pilule-là va permettre de réduire la détresse psychologique des femmes. Puis on va mesurer justement leur niveau de symptômes à long terme.
Mais une question un peu technique. Est-ce que la personne ne va pas se sentir bizarre? Ça prend, parce que la personne, c'est comme avant qu'elle reçoive une annonce, c'est ça?
Oui, mais c'est sûr qu'elle va se sentir bizarre de toute façon qu'on donne la pilule ou pas. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que la pilule, de toute façon, quand on prend un propranolol, on n'a pas des symptômes, des effets secondaires là, qui sont remarqués. Donc, la personne va vivre son expérience de recevoir un diagnostic ou pas, mais ça, elle ne va pas avoir la réaction de son corps comme une réaction anxieuse qu'une personne pourrait avoir, elle ne l'aura pas. Donc, quand elle va se souvenir de cet événement-là, de l'annonce du diagnostic, ça va être un souvenir non traumatique.
Mais qu'est-ce que vous allez dire à la personne? On fait une étude sur... parce qu'elle sait qu'elle va rencontrer un médecin, mais en même temps, elle ne sait pas qu'elle va se faire annoncer qu'elle a un cancer. Donc, comment vous approchez les personnes?
Dans le fond, on prend toutes les femmes qui se présentent à l'hôpital pour une prescription de biopsie. Donc, dès qu'une femme ressent une bosse dans son sein, à ce moment-là, elle peut prendre part à notre étude. Puis, dans le fond, que la personne ait un diagnostic positif ou négatif, nous, on ne le sait pas non plus. Donc, ça va vraiment être mis... présenté comme ça. Donc, c'est aussi une intervention qui n'est pas prouvée encore comme étant efficace. Donc, ça aussi, ça va être dit aux patients. Là. Donc, ceux qui participent à ça, ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus, mais on essaye parce que ça a été montré efficace chez des populations cliniques comme stress post-traumatique, troubles anxieux.
Et à ta connaissance, est-ce qu'ailleurs dans le monde, on fait plus attention à l'aspect psychologique des gens, ou en tout cas à certains endroits, peut-être pas partout?
J'aurais de la difficulté à dire où, parce que dans mes études, ça provient vraiment de partout dans le monde, là, quand on regarde la littérature. Donc, c'est sûr qu'il y a des essais un peu partout, mais est-ce que plus qu'ici, je pense pas.
Quelquefois, on a des modèles, dans n'importe quel champ d'intérêt, il y a des modèles, tel pays ou telle société est avancée sur cette approche-là, mais ça t'a pas nécessairement sauté aux yeux comme tel.
Non, c'est ça.
Là.
Je dirais qu'on est... Il y a de la psychologie aussi en oncologie, puis je veux vraiment pas leur taper sur la tête. Ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais nous, on va essayer de venir leur proposer peut-être un nouveau traitement innovateur.
Et tu te sens à l'aise de jouer un peu dans ce... Parce que tu amènes le côté psychologique, tu veux que les choses s'améliorent. Tu as affaire avec des gens qui ont peut-être l'habitude de faire, justement, on disait tantôt, peut-être plus le côté physique.
Oui.
comment conjuguer tout ça, tu es
oui.
à l'aise?
Oui, je suis quand même à l'aise et je trouve que l'équipe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ils sont vraiment ouverts. Donc, je pense que ça aide aussi à faire le pont entre les deux. Donc, ils nous ouvrent leur clinique, leurs patients et tout ça, puis ils sont vraiment ouverts à essayer, ils voient là, que leurs patients, ça, quand ils annoncent un diagnostic de cancer du sein, ça va pas si bien que ça. Donc, si une intervention aussi simple que donner du propranolol une heure avant l'annonce, ou pas l'annonce, ça peut les aider psychologiquement. Eux, ça leur tente. Donc, c'est sûr que ça encourage et ça motive aussi de prendre part à ce projet-là.
Il y a beaucoup de gens qui veulent participer, peu importe dans les problématiques comme mm-hmm. ça, mais ils sont prêts pour la cause ou pour, oui. en tout cas, pour aider les gens, que ce soit soi-même ou les autres. Ça,
oui.
Ils sont prêts à le faire. Là.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des références qu'on peut donner sur la question, entre autres, ce que tu as fait, ou ça va éventuellement venir, ça va être publié, ou si on veut s'informer un peu plus sur ton approche ou l'approche que vous avez avec le groupe?
Dans le fond, j'ai fait une petite capsule vidéo aussi qu'on pourrait laisser le lien dans la barre de description. Sinon, la Fondation du cancer du sein qui m'épaule beaucoup dans mon projet pour les femmes qui auraient justement de la difficulté, de la détresse psychologique, ils offrent quand même beaucoup de services aussi à cette fondation-là.
Donc, c'est ça, c'est une capsule que tu as faite sur YouTube, hein,
oui,
je pense. C'est ça,
exactement.
Ça dit ma thèse en 145. On va mettre le lien sur notre site web, donc antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie 12. On donnerait le lien pour ça explique un peu ce que tu as fait comme cheminement. Là.
Oui, puis plus en détail, là, parce que là, je suis allée un petit peu vite, mais pour les gens qui se demandent le propranolol, c'est quoi et tout ça, ça va être plus expliqué en détail.
Intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Justine Fortin, d'avoir été des nôtres. Et puis,
plaisir.
Une prochaine chronique, puis bonne continuation. On va certainement se reparler dans le futur, parce que c'est très intéressant comme projet. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
À la prochaine.
S'entend plus, nos conversations sont mortes et sans but. Penses-tu qu'on s'aime plus? Dis-moi, plus comme au début. Je le vois plus dans tes yeux, toi le vois-tu dans les miens? Ça fait comme dans les vues, sais-tu le début de la fin? Je sais que même si je reste droite, que je me bats comme un soldat, on va finir à quatre pattes, espérant que ça ne s'arrête pas. Parce que plus ça fait mal, et plus t'en demandes, tu trouves ça normal, la façon qu'on danse. Parce que plus c'est malsain, plus ça m'éteint, ça me brûle, c'est intense. De comment il fait noir, on se nourrit de nos mensonges, on s'amuse à les croire. Quand on se dit je t'aime, nos yeux se crient après je te hais. Puis ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on le fait pas exprès, c'est qu'on s'aime à mourir, mais qu'on chauffe mal sale, juste à l'idée que mourir nous guérirait du mal. Je te veux proche, je te veux loin. Plus on leur demande, on trouve ça normal, la façon qu'on danse. Parce que plus c'est malsain, plus on se retient, tant qu'on brûle ensemble dans notre démence. Ça fait un bout qu'on s'entend plus. Aujourd'hui, je ferme la porte, j'en peux plus.
De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Nous poursuivons, Pierre, avec le sujet entamé plus tôt, un des sujets les plus, je dirais, tabous que tu as abordé depuis longtemps. Peut-on guérir la pédophilie? C'est un sujet tabou, d'après moi.
Je te dirais, oui, peut-être encore,
ouais.
Un des sujets, je pense, qui fâche le plus la population. Et moi, de même, je ne suis pas mieux que la majorité des gens. Tu sais, je me dis, pourquoi est-ce que ces gens-là sont pas capables de se retenir?
Oui, puis comme tu expliquais, évidemment, la pédophilie puis les agresseurs d'enfants, c'est deux choses différentes.
Des choses différentes, oui.
Ce qui est souvent mélangé par les jeunes.
Oui, parce qu'on apprend ici que la pédophilie, c'est l'attirance en tant que telle envers les jeunes enfants. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là vont passer à l'acte. Et on voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se retiennent, effectivement. Alors... oui, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Peut-on guérir la pédophilie? » C'est écrit par une madame qui s'appelle Bouchra Watik. Alors, quel traitement pour les pédophiles? Je poursuis ma lecture. Alors, on dit « La majorité des experts s'accordent à dire qu'il est impossible de guérir la pédophilie, mais qu'on peut la traiter en apprenant au patient à contrôler son attirance. » Le psychiatre et chercheur canadien Paul Fedoroff a traité des centaines de pédophiles. Ses patients reçoivent d'abord des médicaments destinés au traitement du cancer de la prostate qui ont pour effet secondaire de réduire la libido. Ils suivent également des thérapies individuelles et de groupe pour apprendre à développer des relations entre adultes qui ne sont pas basées sur la sexualité. Le docteur Fedoroff nous dit « L'idée est de supprimer leur libido pendant que nous les aidons à développer un intérêt et un comportement normal. Une fois qu'ils sont dans une relation saine et équilibrée avec une personne de leur âge, nous arrêtons les médicaments et leur libido revient, mais dans le cadre d'une relation saine. Et cela fonctionne très bien, nous dit-il. » Le psychiatre incite aussi ses patients à s'entraîner à fantasmer sur des adultes lorsqu'ils sont excités, en consultant par exemple de la pornographie montrant des adultes. Le docteur Fedoroff nous dit « Notre clinique existe depuis environ 21 ans et aucun des hommes qui a suivi ce programme n'a récidivé en commettant une agression. » La majorité des patients traités par le docteur Paul Fedoroff ont commis des crimes sexuels et ils suivent ces traitements dans le cadre de leur réhabilitation. Mais pour les pédophiles qui n'ont jamais commis d'agression, il est plus compliqué d'obtenir de l'aide. Même s'ils sont innocents, ils risquent d'être signalés aux autorités en s'adressant à un professionnel de la santé. Au Canada, les médecins et les psychologues peuvent briser le secret professionnel s'ils estiment qu'ils risquent d'y avoir une victime. Le docteur Fedoroff dit « Cela fait en sorte qu'ils ne consultent pas, puisqu'ils savent que je vais les dénoncer. » M. James Cantor nous dit « Au lieu de recevoir le patient en thérapie, où je peux lui fournir des médicaments qui réduisent sa libido et lui apprendre à résister à son excitation, cette personne circule dans la société sans aucune supervision. » Il croit que le Canada devrait s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne, où la loi protège le secret professionnel dans ces circonstances. Dans ce pays, l'organisme qui s'appelle Dunkelfeld, qui est un terme allemand qui signifie « zone sombre », propose des thérapies préventives aux hommes pédophiles qui ne sont jamais passés à l'acte. Depuis 2005, une dizaine de cliniques ont traité des centaines de patients à travers l'Allemagne. Le Centre de santé mentale Royal Ottawa veut s'inspirer de cette approche. Le docteur Paul Fedoroff dit « Nous aimerions vraiment traiter les gens qui ne sont jamais passés à l'acte et nous nous apprêtons à publiciser que nous offrons un traitement qui n'implique pas de se faire arrêter et qui fonctionne. » D'autres établissements, dont l'Institut Philippe Pinel de Montréal, acceptent aussi de traiter des pédophiles qui ne sont jamais passés à l'acte. Certains pédophiles abstinents se tournent plutôt vers des groupes d'aide en ligne tels que Pédophiles Vertueux. Ce groupe virtuel accepte uniquement les pédophiles qui s'engagent à ne jamais toucher à un enfant et à ne jamais consulter de pornographie juvénile. James Cantor conclut « La société est prête à dépenser pour se venger, mais pas pour faire de la prévention. C'est la plus grande erreur que nous faisons. »
D'ailleurs, Pierre, des gens vont peut-être nous écouter puis vont dire « Mais pourquoi ils parlent de ça? » Mais à quelque part, on a été habitué ici à l'émission de parler de sujets tabous, c'en est un. Puis c'est pas connu. Moi, j'ignorais toutes ces recherches-là qui existent justement sur le sujet. C'est dans le but de prévenir justement qu'il n'y ait pas d'agression et qu'on puisse mieux comprendre la problématique. C'est un peu ça. Là.
Oui. Maintenant, j'aimerais parler aussi, il y a un point très important.
Oui.
C'est les différences dans le cerveau. Le chercheur en psychologie, James Cantor, s'est quant à lui penché sur les causes de la pédophilie. En comparant les cerveaux d'hommes pédophiles et non pédophiles en imagerie par résonance magnétique, il a constaté des différences dans la matière blanche, c'est-à-dire les axones qui relient les différentes zones du cerveau. Et chez les pédophiles, la densité de matière blanche est plus faible à certains endroits. James Cantor explique que les adultes non pédophiles ont tout naturellement un instinct protecteur à la vue d'un enfant et un instinct de séduction à la vue d'un adulte qui les attire. Mais chez les pédophiles, la vue d'un enfant déclenche chez eux des pulsions de séduction. Selon lui, cela est dû à la façon dont la matière blanche relie certaines zones du cerveau. Il nous dit que le problème chez les pédophiles est que ces connexions ne sont pas reliées correctement. C'est un peu comme si elles étaient croisées. Il croit que ces anomalies dans la matière blanche se développeraient durant le premier trimestre de la grossesse. Le stress maternel, la malnutrition, les conditions de vie difficiles, tous ces facteurs influencent fortement ce qu'il appelle la soupe chimique dans laquelle le fœtus se développe. Et même si ses recherches démontrent que la pédophilie est innée, James Cantor est catégorique. Les pédophiles ne sont pas condamnés à devenir des agresseurs. Mais on peut aller voir sur Internet, il y a des endroits, il y a des centres d'aide pour les hommes qui ont des tendances pédophiles.
Pierre, je peux inviter les gens, pour avoir des bonnes références justement, de venir sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section « Mentionner à folie douce » et chercher à ce moment-là ta chronique « Peut-on guérir la pédophilie » pour avoir les bonnes références. D'accord?
Exactement, oui.
Merci beaucoup Pierre pour ce sujet. Donc, « Peut-on guérir la pédophilie »
Summer left me broken, and your cold rain had me soaking. You know where I left my heart in the hands of a child. Alone in your garden, asking all for your pardon. Oh, be kind, hold yours in mine, hold yours in my hands of a child.
A fistful of kisses, exposed, a fistful of bitches. Bet. But sometimes I go and forget, 'cause one day we met, oh, one day we met.
Now we went wild,
a fistful of kisses.
Knocking at our place, a heavy-handed girl, familiar face.
She'd like to know if you were there. Paint her like a French girl. I don't even care. Send her a fistful of kisses. Violist.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques instants pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors Pierre, aujourd'hui on a entendu plusieurs chansons comme d'habitude. La première, Cœur chaos.
De Nicolas Testa.
On écoutait Maudite promesse.
De Deux frères.
Dans la deuxième demi, Notre belle démence.
De Roxane Bruno.
Et à l'instant, XOXO.
De Charlotte Cardin.
Merci pour ton choix musical et ta mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour tes blocs espresso et allongés. Un sujet extrêmement tabou. On en parlait ensemble. Ouais. Peut-on guérir la pédophilie? Alors, ça a vraiment été fait dans le sens d'informer les gens. Oui. Il y a des recherches qui se font pour Exactement. Améliorer la situation, pour prévenir.
Surtout. Pour en connaître de plus en plus.
Exactement. Donc, merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Luc J. Vigneault, nous a présenté Les merveilleuses têtes heureuses. Notre chroniqueuse, Justine Fortin, nous a présenté sa chronique sur le cancer du sein et détresse psychologique. C'était donc le menu de l'émission cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.